de 8h à midi de 14 à 18h. Wake up le show. Je suis Ismaël Trépanier, votre punisseur et maréchal. Au bout du fil, ben, on a notre master, parmi les masters, le maître, Monsieur Reichmann, vous êtes le cas de le dire. On le salue. Bonjour, Monsieur Reichmann.
Bonjour, Monsieur Trépanier. Et bonjour à tous nos amis du Canada et d'ailleurs.
Oui, et il faut tomber dans le vif du sujet, là. Nicolas Sarkozy, qui est maintenant le 23e président de cette République nommée la France. C'est bien la France, hein, ce n'est pas la Francavia, là.
Ah, ça, pour l'instant, ça reste encore à démontrer.
Oui.
Pour l'instant, rien n'a changé, en tout cas, à ce point de vue-là, sauf la nomination d'un nouveau ministre qui sera chargé de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du co-développement, voilà comment ça s'appelle, et qui est le meilleur ami de M. Sarkozy. Il s'agit de M. Brice Hortefeux. Alors, il est évident que cette nomination va aller normalement dans le sens d'un recul de la Francavia, ou de l'Eurabia plus exactement, mais ça ne s'accompagne pas forcément de beaucoup de cohérence pour le reste. Donc on peut vraiment être très interrogatif sur la composition de cette équipe ministérielle qui me paraît vouloir mêler la carpe et le lapin, le chaud et le froid, et donc je ne donne pas, sans être pessimiste systématiquement, beaucoup de temps à cette équipe pour se diviser. Je pense en particulier à M. Kouchner qui d'ores et déjà prévient que s'il n'est pas d'accord, il s'en ira. Donc, vous voyez, avant même, enfin, il est nommé, mais avant même d'être nommé, il disait déjà cela.
J'ai remarqué que, dans un article fort intéressant, ici à Radio-Canada, que Sarkozy fait de l'œil à la gauche. Et j'ai vu de belles têtes, telles que M. Juppé, un escroc. Est-ce que je peux dire escroc, M. Reichmann?
Bah, en tout cas, il a été condamné par la justice, non pas pour escroquerie, mais pour avoir facilité l'emploi de personnes au profit de son parti politique, le RPR, de personnes qui étaient payées par une collectivité territoriale, à savoir la mairie de Paris. Donc, il s'agit effectivement d'une malhonnêteté qui s'appelle une prise illégale d'intérêt, qui est punie par la justice. Bon, la seule chose qu'il puisse dire pour sa défense, c'est qu'ils étaient nombreux à le faire et que finalement, il agissait sous la responsabilité de Jacques Chirac, lequel est à l'abri, comme vous le savez, était à l'abri en raison d'une interprétation du Conseil constitutionnel qui théoriquement indique que la justice ne peut pas enquêter sur le président de la République tant qu'il est en fonction. Alors là, maintenant, il ne l'est plus, et donc il y a plusieurs magistrats qui, semble-t-il, s'apprêtent à lancer des poursuites contre lui.
Ah oui, des poursuites
Oui, contre Chirac pour les affaires de la mairie de Paris, pour celles d'ailleurs pour lesquelles Alain Juppé a été condamné, puis d'autres aussi. Alors, vous savez, cette situation dure depuis très très longtemps, ce sont des affaires qui datent d'une quinzaine d'années et qui ont empoisonné la vie politique en France. Il est quand même très mauvais d'avoir des responsables politiques qui sont menacés d'être poursuivis en permanence par la justice. Ça leur donne comme unique souci de se préoccuper de leur sûreté judiciaire et non pas de s'occuper des affaires du pays. Donc tout ça est très mauvais, puis en plus ça dénote une tendance fâcheuse à une honnêteté très élastique, et donc vraiment ça a contribué à rendre la vie politique française très polluée.
Que pensez-vous de justement François Fillon, là, qui a été nommé Premier ministre, c'est ça, M. Reichmann?
Oui, ça s'appelle comme ça, Premier ministre.
Oui.
Bah, écoutez, c'est quelqu'un qui est inodore, insipide et sans saveur. un petit peu comme l'eau qu'on boit.
c'est bon.
ce qui lui a permis de faire une carrière finalement assez brillante, puisqu'il est arrivé au poste de Premier ministre. Et on ne se souvient pas d'un mot qu'il ait dit tranche sur l'autre, sauf quand il a été viré du dernier gouvernement par M. de Villepin, et il a dit, là, on a fait de moi le directeur de campagne de Sarkozy. Ce qui, quand même, est assez extraordinaire, parce que un type qui vous explique qu'étant viré du gouvernement, il devient immédiatement un des fidèles les plus proches de celui qui va s'opposer à ce gouvernement, tout en faisant partie d'ailleurs, c'est quand même, ça ne signe pas une grande rigueur doctrinale. Mais enfin, vous savez, dans le personnel politique, la doctrine, ça n'est pas certainement la qualité la plus remarquée ni la plus fréquente.
Non, c'est drôle, je la vois rarement d'ailleurs, très rarement.
Très rarement, oui. Et vous, pour reprendre ce que vous disiez à propos de la gauche, en réalité, ça n'est pas ça n'est pas Juppé qui représente la gauche,
non.
Mais Kouchner, d'une part, Jean-Pierre Jouyet, qui devient secrétaire d'État aux affaires européennes, et puis Martin Hirsch, qui devient délégué interministériel aux affaires humanitaires, etc., enfin bon, pour lutter contre la pauvreté. Bon, Martin Hirsch était l'ancien directeur de cabinet de M. Kouchner lorsqu'il était ministre de la Santé, je crois. Et donc, tiens, d'ailleurs, voyez-vous, on entend des voitures de police, là,
oui.
Ils viennent chercher les délinquants qui sont au gouvernement, là.
Ah, c'est drôle. Ce serait fantastique. On nous demande, via le live, @rockkick.com, les auditeurs nous demandent, attendez, à la justice, c'est qui est à la justice en ce moment, M. Reichmann?
Alors, c'est Rachida Dati. Alors, c'est une jeune femme de 41 ans qui est issue de l'immigration. Elle est de père marocain et de mère algérienne, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Et elle est devenue, à force de travail, elle est née dans une famille d'ouvriers, elle est devenue à force de travail magistrat. Le travail est elle-même de culot, parce qu'elle a réussi à se faire soutenir par pas mal de gens, mais enfin c'est une femme intelligente et capable. Et donc elle devient ministre de la Justice à un poste qui est particulièrement délicat, puisqu'il va s'agir maintenant d'instituer par exemple des peines planchers pour les délinquants récidivistes, parmi lesquels il y a évidemment une majorité de gens qui sont issus de l'immigration, comme chacun le sait, et puis d'autre part, étendre ou augmenter les peines pour les mineurs délinquants, alors toutes choses qui vont évidemment la mettre en contradiction avec sa communauté d'origine, mais enfin, c'est à elle qu'il appartiendra de faire la preuve de son indépendance d'esprit. Enfin, tout ça, c'est quand même extrêmement délicat, et comme je l'ai déjà souligné dans différentes interventions que j'ai pu faire, cette nomination du gouvernement a pris pas loin de 2 semaines, un petit peu moins, 11 jours exactement.
Okay.
Et ça s'est passé exactement comme ça se passait sous la 4e République, c'est-à-dire la République qui a été remplacée en 1958 par la 5e et par le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'on consultait tout le monde. Alors on voyait des gens qui arrivaient, qui entraient dans le ministère, qui en sortaient, qui faisaient une déclaration, et tout ça c'était un petit cirque qui durait pendant un temps indéterminé, puisqu'il fallait que les personnes pressenties pour devenir président du Conseil, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque,
okay,
fassent le tour des différents partis pour savoir s'ils les soutiendraient, pour savoir s'ils participeraient au gouvernement, et c'est ainsi que les choses se passaient d'ailleurs plutôt mal, puisque la 4e République est tombée en raison précisément de son incapacité à avoir des gouvernements qui duraient et qui résolvaient les problèmes. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que l'essentiel de la campagne menée par M. Sarkozy contre M. Bayrou consistait à dire ce que veut M. Bayrou, c'est le retour à la 4e et l'ouverture vers la gauche, et bien c'est exactement ce qu'a fait Sarkozy. Ce qui prouve qu'en politique, il faut quand même avoir un sacré culot pour tenir des propos qui sont infirmés dans la minute qui suit.
Ah, mais peut-être Ségolène Royal, je sais pas.
Ah ben, elle est en vacances en Tunisie actuellement avec ses enfants.
Ah.
Et sans son compagnon chéri.
Ah, c'est donc François Hollande le
oui, il n'est pas là-bas. Il est trop occupé à exclure les gens qui ont fait l'ouverture. Là, M. Kouchner a été exclu du parlement très prenante, et donc il n'avait pas le temps d'aller se ressourcer au soleil de Djerba.
et que de voir Sarkozy, ça c'est, je trouve ça spécial. Est-ce que c'est oui, normal, ou c'est la première fois que ça se voit, un président comme ça, un président de France, aller, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais flirter, aller draguer, si on veut, la gauche? Parce que l'article est comme le titre de l'article que j'ai devant moi, c'est Sarkozy fait de l'œil à la gauche. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est fréquent, ce genre d'habitude?
Ben non, ça n'est pas fréquent, puisque les
Alors le mot habitude est correct?
Le mot habitude est correct, oui, ça n'est pas une habitude, mais il y a eu des ouvertures déjà, mais bon, elles étaient à peu près semblables, mais dans l'autre sens. En 1988, M. Mitterrand, réélu président de la République, avait fait entrer dans le gouvernement de M. Rocard 4 ou 5 personnalités du centre. Le président Pompidou avait fait entrer également quelques personnalités du centre. Et puis, le général de Gaulle lui-même, quand il était arrivé au pouvoir, avait fait un gouvernement où il y avait la plupart des partis politiques, mais ça n'était destiné qu'à une période transitoire. Et ensuite, il n'y a pas eu vraiment d'ouverture, et il y a même eu fermeture complète, puisque Chirac, bien qu'élu essentiellement avec les voix socialistes, n'a même pas fait entrer Monsieur Balladur dans son gouvernement. Et donc, on peut dire en effet qu'il n'y a pas eu tellement d'ouverture. Mais vous savez, l'ouverture, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que une ouverture à des personnalités, ça n'engage que des personnalités elles-mêmes. Et d'autre part, on ne sait même pas quelle politique ces personnalités vont faire. Par exemple, prenez Monsieur Kouchner. Bon, vous savez qu'en dans la République française, il y a une tradition, plus qu'une loi d'ailleurs, qui veut que les affaires étrangères soient ce qu'on appelle le domaine réservé du président. Bon, du coup, le ministre des Affaires étrangères n'est guère que l'exécuteur de la politique du président. On voit mal M. Kouchner, qui a ses idées, n'être que l'exécuteur de la politique de M. Sarkozy. Donc, il y a déjà des contradictions très importantes, avant même qu'ils aient commencé de gouverner. Ils tiennent d'ailleurs, à l'heure qu'il est, ils sont réunis dans leur premier conseil des ministres à l'Élysée. Mais je ne donne pas à ce gouvernement très longtemps pour montrer ses divisions et surtout les grandes difficultés qu'il va avoir à mettre en œuvre une politique, parce que pendant toute la campagne électorale, ce qu'on a brassé surtout, ce sont des idées générales. Et les idées générales, comme dit l'autre, ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne vous engage pas beaucoup. Et donc, on peut vraiment se demander ce qui va devenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons assister très vite à probablement des déceptions, oui, et probablement aussi des contradictions qui deviendront vite insurmontables, tout simplement parce que les problèmes sont devenus très graves en France. Ça fait des années et des années qu'on a même pas posé, pour ne pas dire résolu, le moindre problème sérieux en France. Et donc, à force de raconter n'importe quoi aux Français, on a fini par laisser se créer une situation qui est devenue...
Mais les gens croient beaucoup, M. Reichmann, les gens croient énormément que Sarkozy va réussir à faire quelque chose.
Écoutez, il y a 19 millions de personnes qui ont voté pour lui. Je ne sais pas combien de millions sont encore dans une attente heureuse, mais mon pronostic, c'est que si vous regardez bien le front des Français, il y a 19 millions de paires de cornes qui sont en train de pousser. Mais je ne voudrais pas être exagérément pessimiste. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que ce gouvernement réussisse.
Ben oui.
Seulement, je ne veux pas non plus être dupe des simples paroles et d'engagements qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, j'aimerais que très vite, des cas concrets soient posés devant l'opinion et surtout qu'ils donnent lieu à des mesures. Donc, c'est là-dessus qu'on va juger le gouvernement. Enfin, en ce qui nous concerne, nous avons appelé à voter pour Sarkozy parce que, d'abord, Ségolène Royal était pour nous une candidate absolument inacceptable et qu'on ne voulait pas donner aux socialistes et à la gauche la possibilité de diriger le pays et de faire de nouvelles catastrophes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons bien dit que nous n'avions qu'une confiance très limitée dans M. Sarkozy qui est au pouvoir presque constamment, en tout cas, sur une longue période depuis plus de 30 ans, et qui n'a jamais protesté contre ce qui se faisait. C'est-à-dire que toutes les ruptures dont il se targue aujourd'hui, il ne les a même pas esquissées pendant qu'il était temps de le faire d'une manière crédible. Donc ça ne milite pas pour une confiance réelle qu'on puisse lui porter. Cela étant dit, s'il se révèle comme un réformateur et comme quelqu'un qui tient ses promesses, nous serons les premiers à l'en féliciter.
Jusqu'à maintenant, j'ai remarqué que les Français ont peur de ce qui s'est produit à l'endroit de Sarko et de Cécilia Sarkozy sur une histoire de vote là, qu'elle n'aurait pas fait.
Non, mais ça c'est sûr, elle n'a pas voté pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est sûr parce que des journalistes d'un site internet, son ancien journaliste du quotidien Libération, sont allés photographier le registre qui est tenu dans le bureau électoral et où vous signez lorsque vous avez voté. Donc elle n'a pas voté, ça s'est établi, et ce qui a fait un petit peu scandale, c'est que le journal du dimanche, le dimanche dernier, donc, avait préparé un article expliquant cela, et que finalement l'article n'a pas passé parce que le directeur de ce journal, qui s'appelle Jacques Espérandieu, qui est d'ailleurs un bon journaliste par ailleurs, mais il espère en Dieu, mais il espérait surtout dans l'approbation de Lagardère, son propriétaire, qui lui a dit qu'il valait mieux que Cécilia avait quand même des problèmes en ce moment, qu'il ne fallait pas exagérer, qu'il ne fallait pas lui faire de peine. Et finalement, M. Espérandieu a dit qu'il avait pris cette décision de ne pas publier l'article en son âme et conscience. Alors évidemment, l'âme et conscience a été d'autant plus efficace que le propriétaire du journal lui avait fait comprendre que ce serait une très mauvaise manière que de le publier.
Mais est-ce que ça vaut la peine, selon vous, de parler autant, parce que je sais que ça a été couvert dans beaucoup de médias de votre côté, cette fameuse histoire là, où est-ce qu'elle n'a pas voté au deuxième tour, est-ce que ça vaut
vaut la peine parce que...
Expliquez-moi clairement, oui.
Pardon, ceux qui disent que ça ne vaut pas la peine sont des gens qui ne connaissent pas la politique et les symboles de la politique. Alors il ne s'agit pas de faire des ragots de bas étage ni d'aller traîner dans les poubelles, il s'agit simplement de voir quel est le comportement d'une personne qui, sans être la vice-présidente puisque, ou la présidente, puisqu'elle n'a pas de rôle au sens constitutionnel du terme, a quand même un rôle très important en principe déjà, puisqu'elle est quand même la première dame de France, et deuxièmement, parce que dans le cas du couple Sarkozy, dont chacun sait qu'il est en difficulté, elle est intervenue beaucoup, et elle intervient encore d'une manière qui démontre qu'elle exerce encore une influence que certains jugent néfaste sur son mari. Pour ne prendre qu'un exemple, deux exemples même, qui sont là encore du domaine du symbole. Il semble bien que l'équipée de M. Sarkozy sur le yacht de M. Bolloré, le Paloma, soit pour l'essentiel fait pour faire plaisir, a été fait pour faire plaisir à Cécilia Sarkozy. De même, encore une mesure qui, au niveau du symbole, est à mon avis calamiteuse, Madame Sarkozy s'est précipitée à Brégançon, qui est la résidence d'été des présidents de la République. C'est un ancien fort militaire qui est situé dans le Var, sur la côte. Et les traces des Chirac n'étaient pas encore tout à fait sèches qu'elle est déjà, depuis hier soir, elle y est déjà installée et on dit que son mari va la rejoindre. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui, lorsqu'il y a un héritage, est là à 6h du matin pour l'ouverture du testament, quoi. C'est un petit peu de mauvais goût, quoi, si vous voulez. Alors, certains vont dire que c'est des ragots, mais moi je ne pense pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment, mais j'y accorde de l'importance, parce que en politique, le symbole a de l'importance, et que l'estime qu'on peut avoir pour un homme politique tient bien sûr à son action, mais tient aussi à son comportement. Et là, ce qu'on a vu jusqu'à présent de M. Sarkozy et de son épouse ne milite pas pour un respect excessif qu'on porterait à leur personne. Bon, il se peut qu'ils aient fait des erreurs et qu'ils les rattrapent, mais pour l'instant, ce ne sont pas des comportements qui sont à mettre à leur actif.
Alors, dans le fond, on peut parler de la vie d'un couple, un peu comme François Hollande et Ségolène Royal, et ça peut démontrer aussi, ça peut avoir des répercussions sur le parti, nécessairement. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, là.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a un livre de deux journalistes du Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui vient de sortir et qui a un formidable succès, et qui explique que finalement, c'est une rupture sentimentale qui a aidé, elle n'a pas été la seule cause, mais qui a aidé Ségolène Royal à se lancer dans la bataille présidentielle et finalement à prendre la place de son compagnon, puisqu'ils ne sont pas mariés.
Oui.
Comme quoi la vie personnelle influe quand même sur le comportement des gens. Et bon, ça n'est pas quelque chose qui est du même ordre que les rapports de force politique, les doctrines et que tout ce qui fait vraiment le fond d'une ligne politique.
Mais il y a des femmes.
Des éléments.
Oui, il y a des femmes. Il y a une femme qui nous dit la Cécilia Sarko mène Nicolas Sarkozy par le bout du nez. Êtes-vous d'accord?
Écoutez, on peut le dire. en tout cas, j'en ai l'impression.
Oui.
Si jamais Nicolas Sarkozy pense le contraire, il a une bonne façon de le démontrer, c'est-à-dire en mettant son épouse en demeure de se comporter comme la première dame de France et non pas comme quelqu'un qui a passé sa vie dans le showbiz.
Oui, parce que là, on a l'impression que c'est elle qui est la présidente de la France, non?
Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est elle qui joue un rôle particulièrement important dans le comportement de son mari. Et comme ce rôle ne va pas dans le bon sens, je pense qu'effectivement, il serait utile pour lui de rectifier le tir. Mais vous savez, ce qui a précédé cette campagne a été vraiment un roman en feuilleton, puisqu'elle l'avait quitté, puis ensuite elle est revenue. Lui-même s'est mis en couple avec une journaliste du Figaro, qui était elle-même, euh, qui, qui était divorcée, je crois, enfin bref, ou qui a quitté son mari et ses deux enfants. Enfin bon, il y a eu toute une série d'imbroglios qui ont créé des situations assez délicates, parce que comment voulez-vous, si vous ajoutez à cela le problème des journalistes mariés avec des hommes politiques, vous avez une situation qui devient vraiment vaudevillesque. Là, pour vous donner un exemple, M. Kouchner est marié avec Mme Christine Ockrent, qui fait une émission importante le dimanche soir sur France 3. De même, M. Borloo est marié avec une journaliste de France 2 qui, en raison de la campagne présidentielle, n'a pas été à l'antenne pendant cette période. Seulement, voilà, le problème, c'est qu'elle va revenir à l'antenne et que M. Borloo est de nouveau ministre. Alors, quelle est la déontologie quant à M. Barouin, qui, semble-t-il, ne sera pas de cette équipe ministérielle, alors, en tout cas, il n'est pas de la première fournée qu'on a connue ce matin. Eh bien, M. Barouin, lui, est en couple avec une présentatrice, Marie Drucker, de France 3. Donc, vous voyez, ce mélange des genres, qui d'ailleurs vient de s'accroître parce que deux journalistes connus sont entrés dans les cabinets de messieurs Sarkozy et Fillon. Catherine Pégard du Point est devenue conseillère politique de monsieur Sarkozy, et Myriam Lévy, qui est au Figaro et qui suivait la campagne du Parti Socialiste, devient conseillère politique ou conseillère en communication de monsieur Fillon. Donc il y avait ce que je critique depuis très longtemps, et je ne suis pas le seul, puisque monsieur Bayrou a lui-même pris notre suite dans ce domaine-là, ce mélange absolument incroyable qu'il y a entre les politiciens et les journalistes. Ça n'est pas normal, parce que le journaliste doit être indépendant. En tout cas, si des attractions irrésistibles se manifestent, il faut qu'ils en tirent la conséquence, il faut que l'un des deux quitte ses fonctions, parce que ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à la fois vous prévaloir, étant journaliste, de l'indépendance qui est inhérente à la fonction journalistique, et en même temps être en couple avec quelqu'un qui fait de la politique. Donc tout ça, c'est un mélange des genres, c'est un style qui est absolument... Oui. Incestueux, pourrait-on dire, sur le plan idéologique, et qui est très dangereux pour la considération que les citoyens portent à la politique, parce que quand ils voient ça, ils se disent, bah écoutez, ils sont tous cul et chemise, comme on dit vulgairement, et par conséquent, il n'y a rien à attendre d'eux, ni de la vérité.
Un dernier truc, M. Reichmann, est-ce que la gauche peut résister? La gauche peut-elle résister? Deux paris en un, Nicolas Sarkozy l'a emporté dans une courte tête de la capitale, c'est ça, avec 50,19, quelque chose comme ça, dans les suffrages. Et du côté, mais ça, c'est du côté nord. Et au niveau est et au sud, ben c'est largement Ségolène Royal où est-ce que les gens ont voté pour le Parti socialiste. Est-ce que vous croyez que la gauche va faire barrage ou sera dans l'obligation de se plier un peu à ce que Nicolas Sarkozy fera comme type de politique?
Oui, le problème de la gauche, c'est qu'elle est dans une situation très compliquée parce qu'elle n'a jamais su choisir entre la social-démocratie et le marxisme. Les Allemands ont fait ça depuis plus d'un demi-siècle, ça peut même 60 ans maintenant, et les Français n'ont jamais finalement récusé le marxisme, si bien qu'aujourd'hui, ils ne savent pas s'ils peuvent être sociodémocrates, c'est-à-dire choisir une politique démocratique avec évidemment des mesures sociales, mais qui ne rend pas incompatible, comme par exemple en Allemagne, le fait qu'il y ait éventuellement une coalition, ou s'ils doivent rester en perpétuelle rupture avec... la doctrine marxiste qui s'oppose évidemment à tout ce qui peut ressembler à l'économie de marché. Et donc c'est ça qui est le gros problème de la gauche. Et actuellement, et il y a un autre problème qui est celui des chiffres. Le Parti Socialiste a fait aux environs de 25%, et le reste de la gauche a fait à peu près 10%. C'est-à-dire qu'au total, les voix de gauche font 36%. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la moindre chance de gagner le pouvoir. Il leur faut donc chercher des alliés. Et le grand problème qu'a le parti socialiste, c'est que la dernière fois qu'il a fait un choix stratégique, c'était lorsque M. Mitterrand a décidé la politique d'union de la gauche. Mais à l'époque, le Parti communiste était aux environs de 20%. Donc le calcul de Mitterrand était assez simple, et finalement il s'est révélé payant pour lui, puisqu'il s'est dit, si le Parti socialiste arrive à faire 25, 26 ou 27, et que le Parti communiste se maintient autour de 20 et que les radicaux de gauche font 4 ou 5, eh bien la majorité est acquise, et celui qui dirigera la coalition de gauche sera président de la République. C'est ce qui est arrivé avec M. Mitterrand en 1981. Alors depuis, ils ont continué de maintenir cette stratégie avec plus ou moins de bonheur. Okay. Bon, le problème, c'est qu'entre-temps, les Français ont changé et que le Parti communiste est réduit, fort heureusement d'ailleurs, à un score minable de 2%. Et donc, la stratégie d'union de la gauche n'est plus possible. Donc, il leur faut inventer une autre stratégie, mais pour ça, il va falloir qu'ils récusent le marxisme, parce que s'ils veulent se rapprocher du centre, qui représente, si on en juge par le score de M. Bayrou, beaucoup plus que ça n'était avant, puisque Bayrou a fait 18,5%, alors si les socialistes veulent se rapprocher du centre, il faut qu'ils mettent un petit peu d'ordre chez eux, si bien que on peut vraiment se poser des questions sur leur avenir. Cela étant dit, ceux qui enterrent la gauche aujourd'hui le font à mon avis trop vite, parce que n'oublions pas une chose, Mme Royal a quand même fait 47% des voix.
Oui, c'est
et
ça.
Les études qui ont été faites sur la composition de son électorat démontrent que l'essentiel des gens qui ont voté pour elle, enfin la majorité d'entre eux, avaient un refus de Sarkozy. Plus encore qu'une adhésion à la personne de Royal ou à sa politique. C'est-à-dire que, en fait, l'opposition à Sarkozy est très forte dans une partie qui est presque celle de la moitié de l'électorat français, et c'est aussi la raison pour laquelle il a fait cette ouverture à Kouchner et à un ou deux autres socialistes pour essayer de désarmer ses critiques. Ça n'est pas pour le plaisir de faire une ouverture à gauche, c'est vraiment pour des raisons de maintien à l'Élysée, de durée, mais ce calcul risque de se révéler bien insuffisant assez vite, parce que finalement, ce sur quoi il va être jugé, c'est sur les mesures qu'il va prendre et sur leur succès ou sur leur échec.
On pourra, je vous pose, Bayrou, est-ce qu'il est mort ou il existe encore?
Ah, il existe encore, il va présenter même 577 candidats, un petit peu moins quand même, parce que je crois qu'il y a quelques circonscriptions où ses anciens amis, semble-t-il, ne seront pas opposés à un candidat du MoDem, puisque c'est comme ça qu'on appelle son parti, le Mouvement démocrate. Mais il va évidemment avoir pas mal de difficultés, parce que le scrutin, le mode de scrutin français fait que celui qui arrive troisième, même s'il peut se maintenir, n'a que peu de chances d'être élu. Or, les sondages lui donnent environ 10 à 12% des voix, ce qui ne lui permet pas d'espérer avoir un groupe parlementaire, ou s'il en a, il sera très réduit, et qui d'autre part ne lui permet pas de peser sur l'élection. Mais vous savez, les choses changent très vite en politique et il ne faut jamais enterrer trop vite les partis, tout simplement parce que ça dépend de la situation. Si la situation de la France était relativement stable, on aurait devant nous 5 années au cours desquelles il n'y avait pas de changement de majorité, il n'y aurait pas de changement de majorité à attendre. Mais là, les problèmes sont tels et ils sont tellement explosifs que même une majorité assez nette, comme celle qu'a emporté M. Sarkozy, peut se révéler très vite fragile et que des oppositions très fortes peuvent naître. C'est pour ça que j'ai le sentiment que nous dansons sur un baril de poudre.
Monsieur Reichmann, merci. La prochaine fois, on se parlera par la fameuse technologie Skype. Je vous envoie tout le matériel pour que vous soyez en mesure justement de pouvoir.
Alors, le matériel, c'est un costume de sous-marin, des palmes et un masque, c'est ça.
Exactement.
De façon à pouvoir franchir l'Atlantique et donner l'impression à nos auditeurs que je suis dans les studios québécois de Rockwick.
C'est en plein ça.
Voilà, c'est beau la technique.
Effectivement, parce que je vous assure que c'est d'une qualité mais extraordinaire.
On va essayer ça oui. J'en serais ravi.
Je vous remercie beaucoup et ça pourrait peut-être même être une solution pour vos futures entrevues sur claudereichmann.tv.
Pourquoi pas.
Et voilà.
À bientôt.
Passez un bon week-end.
Vous aussi, au revoir.
Merci beaucoup, M. Reichmann. Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. Merci à lui et merci à tous ceux qui, justement, ont écouté. Si vous avez des informations à nous transmettre, vous avez le live@rockick.com, le live@rockick.com. Vous avez aussi une autre solution fort intéressante. Pas juste MSN, mais aussi le courriel. Et si vous avez des documents à nous envoyer, faites-le maintenant, ça nous fera plaisir. Vous avez la solution Skype, mesdames et messieurs, Skype, qui est très facile, qui est très efficace. Vous allez dans la section Kickask Link. Et même toi, Janik, Janik, tu pourrais aller downloader la solution Skype, logiciel qui est gratuit, de téléphone. Tu as besoin de ton PC, tu as besoin d'un micro, de tes haut-parleurs, et tu peux communiquer avec nous via Internet, et ce, totalement gratuit. Tu veux réagir et même plus taper des longues distances, cher ami ou ceux qui écoutaient, eh bien, c'est simple, faites-le maintenant. Allez downloader la solution Skype. Maintenant, la ligne possible de pouvoir parler à nous en ondes. Vous prenez l'adresse rockick.com et c'est facile. On vous accepte justement si on vous invite aussi facile que ça. Merci d'être là. Il est présentement 11h38 minutes, 10h, 18h, 17h, 18h, 38, c'est pas de temps, là. Ça, ça s'appelle Calis, on passe en pause.
Hi, this is Ozzy Osbourne. Hello,
this is Miami from Black Sabbath.
I'm Joe Perry. This is Steven Tyler from Aerosmith.
Hey, this is Red Rocker, Sammy Hagar.
Rock. Rocking.com. Rock.